Cette semaine avec le père Nicolas Benedetto.
Chers amis, bonjour. Donc nous continuons de parcourir le Je vous salue Marie. Alors nous n'avons pas le temps bien sûr d'approfondir tous les passages, mais aujourd'hui nous pourrions nous arrêter sur cette phrase « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Voilà. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ou on pourrait dire plutôt « Tu es plus bénie que toutes les autres femmes » parce qu'en hébreu il n'existe pas ce comparatif. Donc voilà, « bénie entre toutes les femmes », c'est ça que ça voudrait dire. Pourquoi es-tu bénie entre toutes les femmes? Pourquoi es-tu plus bénie que toutes les autres femmes? Eh bien parce que tu portes en ton sein le Fils de Dieu. Cette parole de « tu es bénie entre toutes les femmes », elle est tirée de la parole d'Élisabeth à sa cousine Marie quand Marie vient la visiter juste après l'Annonciation. Donc ce dévouement au prochain d'ailleurs, que Marie déploie après avoir reçu cette grâce inouïe, la plus grande de toutes les grâces, visitée par l'ange, elle qui conçoit le Fils de Dieu en son sein, eh bien ce dévouement au prochain dont elle fait preuve, c'est peut-être le meilleur symptôme, on pourrait dire, de sa réceptivité à la parole de Dieu. Voyez, si vraiment je reçois cette parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, elle donne son fiat, elle ouvre son cœur en entier, et sans limite, elle dit un oui sans réserve. Eh bien, que se passe-t-il? Elle est remplie ensuite de cette charité du prochain et donc elle se précipite auprès de sa cousine Élisabeth pour se préparer, pour l'aider à se préparer à enfanter son premier enfant, qui est Jean-Baptiste. Alors, si on reprend un petit peu le magnifique chant d'action de grâce de la Vierge Marie, le fameux Magnificat qu'elle dit devant Élisabeth, c'est intéressant parce que il y a un peu toute l'ancienne alliance qui est là présente, même si on regarde plus précisément dans les mots. Regardez, lorsque nous disons « Mon âme exalte le Seigneur ». Exalte, vous vous rappelez, on avait parlé de ce mot « roum » en hébreu, « exalté ». On avait dit au participe passé, ça donnait justement « merim » qui pourrait être l'origine même du nom de Marie. Voilà, donc ce serait Marie l'exaltée qui est là présente, cachée au milieu de cette prière sublime. « Mon âme exalte le Seigneur », dit Marie. Et elle dit encore « Mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur ». Eh bien, Dieu sauve, Yeshua, hein, c'est Jésus. Mon sauveur, c'est le Christ, c'est le nom même de Jésus. Si nous continuons un peu plus loin, il s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu, en hébreu, Zacharie. De sa miséricorde, lorsque nous parlons aussi de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui s'étend d'âge en âge, hein, Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Yohanan, c'est Jean. Et donc on pense au Baptiste, bien sûr, Jean le Baptiste. Et enfin, de la promesse faite à nos pères, cette promesse, Dieu promet, eh bien c'est justement Élisabeth. Élisabeth, voyez, il y a toute la maison de Zacharie qui est présente, qui représente toute l'ancienne alliance. Voilà, on est au seuil du Nouveau Testament, et donc cette visitation, on pourrait dire, c'est la rencontre des deux testaments. Alors on pourrait le dire encore différemment, on pourrait dire même que c'est la royauté qui rend visite au sacerdoce. Alors pourquoi ça? Eh bien, si on reprend déjà un petit peu la question de l'ascendance de Marie, hein, de quelle ascendance est Marie? Il y a plusieurs hypothèses. Certains vont dire que c'est une ascendance davidique, donc elle serait de la tribu de Judas. Mais alors là, ce serait un petit peu étonnant parce qu'on pourrait se demander pourquoi les évangiles ne le mentionnent pas, hein, puisque Jésus, fils de David, voilà, si Marie était de la tribu de Judas, ça aurait été quand même un argument fort à mettre en avant, entre guillemets. Il y a une autre hypothèse, c'est qu'elle serait de la tribu de Lévi. Par exemple, c'est ce que dit Saint Grégoire de Nazianze. Donc, elle serait parente d'Élisabeth, ça on le sait, mais Élisabeth est fille d'Aaron. Donc tribu de Lévi, et cela est intéressant comme hypothèse. Pourquoi? Parce que on pourrait dire alors que Dieu vient unir le sang royal à la race sacerdotale. Voilà, Jésus serait donc à la fois fils de David et puis de la tribu de Lévi, donc il réunirait en lui la royauté et le sacerdoce. Alors effectivement, les Esséniens, ils attendaient en fait deux messies. Ils attendaient un messie royal qui, lui, s'effacerait, une fois sa mission accomplie, devant un messie sacerdotal. Voilà. On peut penser aussi à l'image que prend le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament quand il parle des deux oliviers et des deux oints. Voilà. Alors, c'est une interprétation. Vous voyez, certains écrits juifs, justement, avec ces passages, fondent les deux en se disant, mais voilà, ce Messie royal qui s'effacerait devant le Messie sacerdotal, c'est peut-être en fait la même personne. Donc ce serait un Messie qui serait à la fois roi et prêtre. Voyez. Donc voilà, ça nous éclaire aussi sur la venue de Jésus. Cette royauté qui vient rendre visite au sacerdoce, Marie qui vient rendre visite à Élisabeth. Marie est aussi, bien sûr, cette nouvelle arche d'alliance. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui est aussi très beau. Hein. Cette arche d'alliance qui contient le Christ, en fait, qui contient la parole de Dieu aussi, hein, l'étape de la loi, mais la nouvelle alliance. Et donc, qui vient pendant 3 mois dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, lorsque nous pensons à la Vierge Marie qui est bénie entre toutes les femmes, qui est plus bénie que toutes les autres femmes, eh bien, donc nous la voyons comme la nouvelle arche d'alliance, effectivement. Et puis surtout, nous pensons à toutes ces femmes de l'Ancien Testament qui, on pourrait dire, viennent nous parler déjà à l'avance de Marie. Alors là, il y en aurait beaucoup, beaucoup à citer. Il y a Yaël et Sisera, Judith et Holoferne, Esther, c'est l'étoile en Perse. Il y a Myriam aussi, bien sûr, sœur d'Aaron. Il y a Sarah, celle qui est vieille et stérile et qui, elle, rit quand l'ange lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Donc on fait un parallèle avec Marie qui, elle, au contraire, est jeune et vierge et qui ne va pas rire mais qui va croire. Hein. Rien n'est impossible à Dieu, effectivement. Deux fois... l'ange va dire ça, une fois à Sarah, une fois à Marie. Voilà, Marie va croire ce qui paraît impossible à l'homme, mais qui, en fait, n'est pas impossible grâce à Dieu. On pense aussi à Rebecca, on pense à Rachel, qui est plutôt l'image de la mère éplorée, hein, qui est morte à Bethléem en mettant au monde son second, Benjamin le bien-aimé. Donc là, on pense peut-être à la parole, justement, « Femme, voici ton fils ». Hein, comme si Marie doit recevoir, effectivement, Marie était pleurée au pied de la croix, elle doit comme recevoir en quelque sorte un second fils, comme Benjamin était le second de Rachel, son second fils qui est le disciple bien-aimé. Hein, donc en mourant spirituellement, en quelque sorte, elle devient mère de l'Église. Et puis il y a Anne aussi, Anne, mère de Samuel. Et puis surtout, alors on ne peut pas tout citer, mais voilà, surtout il y a Ève. Hein, Marie est avant tout la nouvelle Ève. Hein, ça, c'est le grand enseignement de l'Antiquité chrétienne, pourrait-on dire. Ça, je crois que c'est Newman qui dit cela. En tout cas, Marie comme nouvelle Ève, voilà un parallèle qui éclaire énormément. Autant Ève a poussé Adam au premier péché, autant Marie à Cana pousse Jésus, le nouvel Adam, au premier miracle. Voilà. Et puis la croix, eh bien, c'est ce nouvel arbre de vie dont Jésus est le fruit. Chers amis, nous nous retrouvons demain pour continuer.